samedi à 7h30.
CIBL 101.5 Montréal.
CIBL, au cœur de la culture.
Bienvenue à toutes et à tous à Trade d'Union. Salut à toi, fidèle équipe, et moi qui étais si loin, si loin.
Excuse-moi, Louise. Là.
Alors, comment ça va, l'équipe?
Ça va.
Ça va bien. Encore une fois, à l'émission, il fait beau.
Il fait très beau.
Oui. Excellent.
Puis moins froid qu'il n'y paraît.
Exactement.
Hey, c'est-tu bien dit, ça? Qui sont-ils, hein? C'est Alexis, c'est Ariane, oui. Et c'est France.
Allô.
Et derrière la console, on Youssef. A Maurice et Youssef. Allô. Bon, ben, je commence avec un mot, c'est non. Il ne sera pas question d'un sujet plate, car l'espoir va illuminer le sujet d'aujourd'hui, les amis. Celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux le connaissent, le sujet, parce que c'est le travail. Le sujet est tellement vaste qu'on a dû se restreindre, les aspects, parce que c'est fou tout ce qu'il y a à dire là-dessus.
Tu as été très ambitieuse avec le sujet.
Oui, je sais. On va y revenir, vous allez voir que c'est quand même passionnant. Mm-hmm. C'est parce qu'en faisant mes recherches sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs biais qui sont suggérés pour en parler, puis ça peut être le permis de travail pour les nouveaux arrivants, la langue au travail, le lieu de travail, travailler pour survivre.
Hey, moi, ça fait 15 ans que je travaille à la shop, hein? Ça fait 15 ans qu'il n'y a pas d'union, hein, ça donne? Il n'y a pas d'union, puis ça n'empêche pas que depuis l'année passée, on a la semaine de 54 heures. Et puis, on a notre congé à Noël, ben au jour de l'an. Et puis, l'été, on a une semaine de vacances payées. On la prend pas toujours, moi, là, pareil. Hey, moi, ça paraît pas, hein, ben, je me fais des semaines de 102, 103. Puis déjà, avec l'overtime, je suis allé chercher 113. Pas clair. Quand j'ai lâché l'école à 13 ans, mon vieux père était sur les morts. Il dit, mon petit garçon, je peux pas te laisser d'héritage. M'en doutais un peu à vitesse qu'il buvait. Et seulement avant de partir, je veux te dire que dans la vie, il y a deux choses qui comptent. Une job steady et un bon boss. Toutes les mousses de fin d'union et des bebelles de main, c'est le même, ça. Ce qu'il faut, c'est une job steady et un bon boss. Fait que moi, je me suis en allé de m'engager à la shop, hein. Je lui dis, quand vous annoncez, c'est une job steady, ça. Ils ont dit oui. Ah ben, je lui dis, vous devez être un bon boss. Hey, je t'ai pas trompé, ok, elle a voulu trouver un boss plus smart que ça, elle a jamais été capable. Hey, une fois, hein, ma femme était tombée malade d'urgence, ça fait que l'hôpital a téléphoné, il est à peu près 2h15, c'est le boss qui répond, il vient noir, il dit, ta femme est tombée malade d'urgence, ils l'ont rentrée. Ben, dis, voyons, inquiète-toi pas avec ça, fais comme si de rien n'était, continue ton ouvrage, moi, reste près du téléphone, s'il y a quelque chose, je te le dirai. Hey, c'est pas n'importe quel boss qui a fait ça. Fait que vers 6h, moins 4, moins 10, il vient noir, et tu penses que t'es mieux d'aller voir ta femme à l'hôpital? Ben, je dis, bah, je finis qu'à 6h. Ah, tu sais, ça fait rien, ça m'a punché pour toi, tu perdras pas une minute. Mais ça te donne de smartphone. Viens, on va y travailler. Fait que là, hey, on est parti à la shop, hein, pis ça y allait. Rendu là, on n'a pas pris le temps de se déchanger rien, pis en ouais, il y a l'ouvrage, hein. Hey, pis moi, je travaillais, pis lui, il me regardait, hein, pis... On aurait dit qu'il savait qu'il y avait quelque chose, il restait avec moi toute l'après-midi, il m'a pas lâché de l'après-midi. Hey. Moi, je travaillais comme un bon, puis lui me regardait comme un bon. Puis... Moi, j'étais content qu'il reste avec moi, mais lui, il était inquiet parce qu'on avait une grosse job, il fallait qu'elle sorte ce soir-là. Mais quand j'ai eu fini ma job avant de partir, j'ai dit, bah, je sais pas comment vous dire merci, il dit, laisse faire.
Moi, j'ai choisi ce petit bout de texte-là parce que aujourd'hui, en fait, c'est l'employé qui a un petit peu le gros bout du bâton pour se faire engager et qui peut négocier ce qu'il veut.
Oui, oui.
Alors, c'est un petit peu différent de ce que c'était avant.
Donc, voilà. Alors, moi, je peux parler de mon expérience. Je regarde les demandes d'emploi dans les CPE et je vois que... Mon micro est comme... OK, c'est bon. Donc, je vois des propriétaires ou des directrices de CPE qui offrent l'habillement pour aller dehors, les bottes.
Ah, ouais?
Ouais. C'est rendu plus qu'une semaine de travail, plus qu'une semaine de vacances, une semaine supplémentaire, une sixième, puis c'est pas prévu dans le contrat. Puis il y a des employés aussi qui demandent, moi, je veux faire du 7-4. Puis c'est souvent les plus anciens, en fait, qui écopent un peu de ce que les nouveaux veulent. T'sais.
Oui, parce qu'ils ne sont pas habitués de demander.
Non. On est habitués de travailler, d'être fidèles à notre poste, mais de demander des choses, c'est plus difficile.
C'est quand même étonnant. C'est quasi dichotomique, la relation patron-employé une génération. Est-ce qu'on peut parler de génération?
Oui.
On est parce qu'on est les parents de ceux qui disent, ben moi, je veux.
Oui. Et tu sais, en même temps, je trouve qu'il manque un petit peu de politesse, là, dans la façon, des fois, de dire ou de demander les choses à son patron. Tu sais, une question de respect entre employés, autant entre employés qu'employeurs, là. Mais voilà. C'est un peu ce que je voulais...
Ça me fait réagir. Je pense pas qu'on a besoin d'être poli quand on demande le strict minimum.
Non, le strict minimum, non. Mais quand tu demandes une semaine de vacances de plus alors que les autres l'ont pas,
Généralement, ces demandes-là, surtout dans des unions, c'est des demandes qui vont être faites de manière groupée, puis c'est des demandes qui vont être établies à la base avant. Puis je pense que comme il faut faire attention parce que l'employeur... a vraiment plus de droits sur l'employé que l'employeur en a sur l'employeur. Puis même si on demande des choses, des fois, je me dis, ben, c'est pas la mer à boire, là. Je sais pas. Je pense qu'il faut peut-être changer. Puis en même temps, je vais en parler plus loin, là, mais ouais, je pense que ça change vis-à-vis les générations. Je pense qu'il y a vraiment ça.
Ben, il y a une dimension hiérarchique dans... tu sais, j'ai l'impression que notre génération est moins capable de prendre le... Mettons, tu sais, il y a différents sortes de respect. Il y a comme le respect qu'on doit à tout le monde, puis tu as le respect qu'on doit au supérieur, puis ça, nous, on n'est pas capable, je pense.
Non, c'est ça.
Genre, ça ne nous tente pas d'être dans cette dialectique-là.
Ouais, ben on va y revenir justement parce qu'il y a plein de sujets qui vont être abordés aujourd'hui. Donc, les choses changent, j'allais dire tranquillement, mais drastiquement. On étudie maintenant d'autres facettes liées au travail. Il y a le milieu de travail qui est étudié, faire le bon choix, les horaires de travail, la langue au travail, l'importance accordée au travail.
Je trouve qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui travaillent de plus en plus, qui font des dents, qui travaillent, consacrent leur vie à leur carrière. Ils font des heures de fou, mettent la famille de côté. Puis moi, je me questionne là-dessus. Je me demande si c'est correct de faire ça. Je me demande pourquoi qu'on vit. C'est quoi le but dans la vie? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Je vous demanderais ça, OK, en général, les gens, ils vont me répondre. Le plus important, c'est les enfants, la famille, les amis, prendre le temps de vivre. Et le pire, on me le demanderait, là, puis je répondrais quelque chose du genre. Mais c'est faux. Si c'était vraiment ça, la famille, les enfants, les amis, on y consacrerait plus de temps. Parce que 80 % du temps qu'on a rendu adulte, là, on le passe au travail. Puis c'est pas parce qu'on pourrait pas travailler moins. Comment personne, là, juste ici, pourrait pas se dire, moi, je fais plus jamais de temps supplémentaire, puis à l'avenir, je vais travailler 4 jours au lieu de 5. Je vais faire un peu moins d'argent, oui, mais je vais passer plus de temps en famille. Je sais, bien, il y en a qui vont dire, moi, mais le gars là qui fait 25 000 par année, que sa femme ne travaille pas, puis qu'il a 2 enfants, il a pas le choix, lui. Ben fou. Je m'en crisse, ils sont pas ici, ils ont pas les moyens de s'acheter un billet pour le show.
Il est quand même pas pire. On va le réentendre un petit peu.
On parle de Martin Matt.
Ben oui, Martin Matt. Il va revenir parce qu'on parle, quand on parle de travail, on peut parler de travail à domicile, de travail à la chaîne, qui est plus rare maintenant. Ben, je dis ça, puis c'est pas vrai.
Ici,
là,
à Montréal. Puis...
Le bonheur versus le travail.
Mon chum encore. Pas d'ambition. Là. Ah! Pas capable. J'ai déjà dit, qu'est-ce que tu fais là? Trouve-toi le cul, trouve-toi un autre job, travaille la fin de semaine, le soir, la nuit, la semaine, tout le temps. Non. Ce gars-là, il dit qu'il est heureux comme ça. Il travaille 4 jours par semaine avec sa femme. Il me l'a même déjà dit, là. Il dit, moi, je suis bien de même. Il dit, je finis tôt. Il dit, quand j'arrive à la maison, je fais une petite sieste avec ma femme. Et après ça, je joue au hockey dans le rec, mon gars. Il dit, toi, fin de semaine, on a des longs week-ends. Fait qu'on va en campagne, on fait du vélo. Il dit, moi, je suis heureux comme ça. Ce gars-là est dans la trentaine. J'y ai déjà dit, hein? T'es en train de passer à côté des plus belles années de ta vie.
Mon Dieu, qu'il y a des vérités là-dedans. Bien, on pourrait parler aussi de l'âge à laquelle on commence à travailler ou à arrêter de travailler. Mm-hmm. Mm-hmm. On pourrait parler, évidemment, du burn-out.
Un burn-out. Si tu te casses un bras, ça m'est arrivé, moi. À l'hôpital, sur la radiographie, ça fait comme une petite ligne sur l'os. Mais un burn-out, c'est rien. Le jour où je verrai une radiographie de burn-out, j'y créerai. C'est une invention des instruits paresseux. Il y a même un de mes chums proches qui dit qu'il a déjà eu ça, un burn-out. Et il se croit, là. Bon, en passant, je suis pas fier que ça soit un de mes chums, là. On a tous des plaies dans notre entourage. Ça faisait des mois, je l'avais pas vu, je le croise dans la rue. Je dis, qu'est-ce que tu fais de bon? Ah, est-ce que je fais de bon? Il est en arrêt de travail depuis 3 mois. Là. Je dis, ah, moi, j'étais-tu fait mal au bras? Mais t'es arrivé, monsieur, là. Il dit, non, il dit, je suis en dépression, je fais un burn-out. Bon. J'ai dit, t'as-tu des symptômes clairs de ça? Il dit, oui, j'ai des symptômes clairs de ça. Il dit, je suis vraiment au bout du rouleau, mon gars. Je suis plus capable de me concentrer, je dors pas, je maigris. La moindre petite chose que j'ai à faire dans ma journée, je suis pas capable de faire, ça m'apparaît une montagne, je broille pour rien. Je te dis, je suis vraiment à bout, là. Faut que je me refasse.
Pauvre petit Pete.
Est-ce qu'il y a des gens d'entre vous qui avaient déjà fait un burn-out?
Moi, je pense en avoir fait un, mais pas diagnostiqué.
Genre, tu l'as juste...
Mais je suis allée voir le psy, par exemple.
Ah, bon. Ouais. Donc, c'est juste...
Moi, j'en ai fait 2, diagnostiqués.
Ah, ben ouais.
En tout cas, c'est compliqué. Puis c'est vrai que le burn-out, c'est pas tout le temps reconnu. La CNSST, entre autres, a beaucoup de la misère à le reconnaître pour des arrêts de travail plus longs que 2-3 semaines.
Ah ouais.
C'est une invention de quoi, ça? D'un gouvernement, la CNSST?
Oui, ça relève, je pense, du gouvernement fédéral. Là.
Les assurances aussi ont de la misère. Hein?
J'ai jamais eu la chance d'être assurée. un jour, peut-être.
Je sais pas si c'est une bonne affaire, parce que ça coûte cher, sur des assurances.
Mais c'est vraiment difficile à faire connaître. Puis c'est vrai qu'il y a des tabous autour du burn-out, puis ça arrive de plus en plus encore. Puis, tu sais, moi, c'était des burn-out liés à l'école, là, genre, puis à mon implication, puis à ce genre d'affaires-là. C'est pas nécessairement lié au travail, mais c'est pas totalement compris par tout le monde. Puis, c'est difficile de faire comprendre aux gens qu'on veut pas retomber là. Puis, mettons que j'en parle avec les gens autour de moi, bien, il y en a beaucoup autour de moi qui me disent « Ah ouais, moi aussi, je pense que j'ai vécu ça pendant genre 26, 28 ans. Il y a comme un problème.
» Il y a des enfants primaires qui en ont.
Ouais. Ouais.
Ouais.
C'est ça. C'est quelque chose qui est vraiment pas encore accepté ou compris, j'ai l'impression.
Mais notre génération, c'était un signe de faiblesse pour notre génération. Oui. C'est, ouais. C'est fou, là. On se faisait regarder, ben secoue-toi, ben pas une journée de congé, là, puis...
J'ai... écouter un podcast, puis là, je ne sais pas si on a le temps d'aller là, mais ça s'appelle, je le recommande en passant, c'est le Ezra Klein Show. C'est un gars du New York Times qui fait un balado. Puis
Ezra
Klein. Puis c'est vraiment excellent. Puis il y a un épisode où il parle, finalement, il parle de toutes sortes d'affaires, mais il fait un parallèle que je trouve intéressant entre l'activité physique puis l'activité mentale. Puis il dit, c'est drôle, tu vas au gym, là, tu rentres dans une gang de gym bros, là, les gars genre, qui soulèvent des poids et tout. Puis dans cette culture-là de la conditionnement physique, c'est aussi important le repos que l'effort. Puis il y a tout un vocabulaire très sophistiqué du type d'effort. Tu fais tant de tel type d'effort. Après ça, il faut que tu changes, sinon tu vas te faire mal. Il faut que tu prennes le temps que ça prend pour respecter tes muscles. Il faut que tu te tires, il faut que ça t'a sensation. Bref, c'est valorisé, puis c'est très compris, genre pourquoi il faut que tu prennes le temps de te reposer.
C'est intégré dans le processus.
Mais on dirait que quand on parle de la santé mentale, on perd toutes les nuances. On n'a pas ces nuances-là. On n'a pas le vocabulaire pour parler du type d'effort mental. Pourquoi... je suis capable de me concentrer pour faire ça, mais pas ça. Pourquoi hier, j'étais capable de faire ça, pourquoi là, je peux pas... Pourquoi il y a certaines personnes qui font un burn-out en faisant la même chose que moi, mettons, qui ne fais pas de burn-out? Ben, c'est que tu vas du côté du sport, ben, tu vois qu'il y en a qui sont plus entraînés que d'autres, etc. Mais on dirait qu'on n'a pas ce vocabulaire-là.
Oui, puis j'ai l'impression que ça va aussi dans... Tu sais, tantôt, on disait de faire des choix dans le temps de travail qu'on demande, mais je pense que ça implique de faire des choix pour notre santé mentale et bien-être. Tu sais, genre, pour être capable de sortir pendant qu'il fait soleil le jour. Mm-hmm. Pouvoir être capable d'avoir une pause dîner.
Mois de décembre, c'est plus difficile.
Oui, oui mais où il y a des fenêtres dans ton bureau, tu sais.
Ouais.
Ouais.
Être pouvoir capable de prendre ton dîner. Genre, de juste t'asseoir puis manger avec tes collègues pendant une heure sans qu'il y ait des étudiants qui cognent à ta porte. Tu sais, c'est plein de choses comme ça qu'on prend pas le temps de faire, qu'au final, nuisent à notre performance au travail, nuisent à notre santé mentale. Puis il y a même des milieux de travail qui maintenant instaurent des endroits où on peut faire la sieste, des moments de pause plus longs. On a parlé des semaines, Martin Matt a parlé des semaines de 4 jours, justement dans le but de comme. Parce qu'ils voient que ça améliore la performance, tu sais.
Mm-hmm.
Puis là, je vais pas rentrer dans une démarche performative de la performance, mais comme. Ouais.
Mais chaque personne aussi est différente. Mm-hmm. On ne prend pas les choses de la même façon que quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Donc, voilà. Moi, j'ai plus tendance à être à me préoccuper des autres puis tout ça. Fait que c'est sûr que je déverse énormément d'énergie.
Mais c'est notre éducation à nous, notre génération.
Ça, c'est sûr. C'est
sûr. Clair.
C'est sûr.
Clair que c'est ça.
C'est sûr.
Moi, je sais qu'entre les anciens profs puis les nouveaux profs, du temps que j'en étais, il y avait une comment dire, un conflit de perception du temps puis de l'investissement.
Mm-hmm.
Ça a créé des problèmes un petit peu, des conflits. Ouais. Mais je pense que c'est les jeunes qui ont raison.
Ouais.
Nous autres, on était naïfs.
Ben, c'est que nous, on est comme confrontés genre, à la catastrophe qui est dans notre futur. Fait qu'on dirait qu'on n'est pas capable de... T'sais, je sais pas, vous pouviez rêver de « Ah, ben si je m'accroche à cette job-là,
c'est vrai, c'est
vrai. Je vais avoir ma maison, mon char, tout va bien aller. » Tu sais, je peux mettre à votre place à ce moment-là puis voir mon futur puis que tout va bien. Si je reste là, je comprends. Mm-hmm. Mais tu sais, nous, moi, c'est comme il n'y a pas de promesse au bout, genre de... pourquoi je ferais ces sacrifices-là?
Mm-hmm. Ouais.
Ouais, ben là, on va commencer doucement à expliquer ce qu'en théorie, c'est quoi ça, le travail?
C'est quoi?
Le travail...
Que le mot « travail » est une déformation de trépalium qui désignait un instrument de torture.
De la torture ?
Du coup, notre société coincée dans la valeur travail nous fait croire que pour gagner sa vie, il faut souffrir.
Et souffrir, c'est bien.
C'est pour ça qu'on nous éduque encore à croire que ne pas travailler, ça revient à ne rien faire.
Rien faire, c'est pas bien.
D'ailleurs, le mot « chômeur », ça vient du terme « kaoumare » qui signifie « se reposer pendant la chaleur ».
Ce qui sous-entend qu'un chômeur, c'est un feignant qui produit rien.
Et que donc, ça se range direct avec les pauvres.
Et les pauvres, c'est pas bien.
Et pour bien creuser ta culpabilité, on te bombarde d'injonctions au travail toute ta vie.
Alors qu'on sait très bien qu'avec la mécanisation du taf, depuis le 19e siècle, il y a de moins en moins de travail pour tout le monde.
Dès l'enfance, on te fait croire que pour réussir...
Faut faire des efforts pénibles pour travailler beaucoup et très longtemps.
Comme ça, tu seras stable et plein d'argent.
Sauf qu'en 2020, 40% des travailleurs du monde gagnent moins de 3$ par jour.
Pendant que ceux qui gagnent le plus de fric vivent de rente et ne travaillent pas.
Bref, le souci, c'est pas de travailler.
C'est non seulement qu'on est obligé de le faire,
mais aussi de devoir accepter que ça profite plus aux autres qu'à toi-même.
Alors que normalement, l'idée pour être heureux, c'est pas d'être dans l'exploitation.
C'est d'être dans la collaboration.
Tu vois la différence ou tu veux que je t'envoie un PDF?
Parce que quand un travail te coûte plus d'estime de toi qu'il ne t'en rapporte...
Bah même si tu gagnes plein de thunes...
Il finit par te ronger de l'intérieur comme si on t'avait inséré un furet.
Tu n'es pas défini par ton travail.
Après, la chose la plus efficace pour donner du sens à ton travail...
C'est faire partie d'une équipe où tu te sens écouté et où tu peux participer activement à un même projet.
Et pas d'être juste un rouage qui fait tourner la roue d'un furet.
Et de toute façon, vu les conséquences de la crise sanitaire de 2020 et tout le bordel économique qui en découle...
Remettre en question notre approche du travail en favorisant le collectif, c'est devenu une question de survie, mec!
Parce qu'il y a quand même des personnes comme Steve Jobs pour te rappeler que si tu ne travailles pas pour tes rêves, quelqu'un t'embauchera pour réaliser les siens.
Ça me semble très important et c'est important aussi dans toutes les réflexions qu'on a en ce moment sur la sobriété. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a eu en Occident... Là encore, au XVIIe, XVIIIe siècle, un immense bouleversement des valeurs.
La dame qu'on vient d'entendre, qui suivait le segment de nos amis de « Et tout le monde s'en fout », que j'ai, mon Dieu, que j'ai rencontré, que j'ai...
T'as découvert.
Que j'ai découvert, il y a 2 ans déjà, puis ils nous présentent de manière ludique des résultats de leurs recherches très, très sérieux, c'est pas des bêtises qui se disent, même si c'est rigolo. Alors, on entendait Dominique Méda, prof de sociologie à l'université, c'est à la toute fin, ça. On a remarqué le décalage un petit peu du ton,
oui.
Du propos. Donc, prof de sociologie à l'Université de Paris-Dauphine, directrice de l'étude interdisciplinaire en sciences sociales. Ses recherches portent sur les dimensions sociologiques et philosophiques du travail, ainsi que sur les indicateurs alternatifs de croissance et de richesse. Puis, mon Dieu, elle a écrit beaucoup, évidemment, dans toutes les formes d'écriture qui peut exister, là, que ce soit des recherches, des livres même. Bon. Mm-hmm. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de du fait que le travail, c'est récent quand même dans l'histoire?
Tu veux dire que c'est récent, que ça ait autant de valeur, en fait, que ça prenne autant de place dans nos vies?
Oui. Ouais. Non, mais pas ça comme... moi, j'ai appris avec ça, mm-hmm, que la notion de travail, c'était pas quelque chose qui était même nommé.
Non,
tu sais, il parle de torture, là. Ouais. C'est le nom qui voulait dire...
Les esclaves.
Les esclaves, mais c'était pas des citoyens à ce moment-là. J'en parlais un petit peu plus tard.
Mais dans le milieu rural, les gens qui vivaient sur les fermes, ils travaillaient, mais c'était pour subvenir à leurs besoins, mm-hmm, personnels, mm-hmm, tu sais, les cultures, la viande et tout ça, tu sais. On lit rarement des trucs où ils vont vendre des trucs ailleurs, tu sais, de la viande ailleurs et tout, parce que les gens subvenaient chacun avec leur petit lopin de terre.
Mais en fait, c'est l'arrivée du travail, puis là, je vais faire une belle apogée à Karl Marx, mais l'arrivée du travail est vraiment arrivée avec l'ère industrielle, ouais, tu sais, en fait. Puis c'est aussi là qu'on voit l'arrivée de l'argent. Là, j'ai réussi mon cours, mais je ne pourrais pas vous le redécrire ici.
Je vais tout te résumer.
Parfait. Mais tu sais, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on voit l'apparition du travail, mmh, comme étant, mmh, le travail, mmh, aussi avec plus dans le travail en usine, mmh, puis l'apparition de l'argent, parce qu'en fait, pour donner une valeur au travail, il fallait qu'on gagne quelque chose, même si on reproduit un petit peu nos besoins au final, tu sais, parce que cet argent-là va servir à quoi? Va payer notre loyer, notre nourriture, notre bill électrique, whatever. Puis ça, c'est tout un besoin de reproduction pour qu'on puisse continuer à travailler. Fait qu'au final, le travail, c'est un gros cercle vicieux qui nous fait dépenser. Fait que quand tu travailles, puis là, je vais faire une grosse exagération, puis c'est pas du tout nuancé, là. Mais quand tu travailles, ça, on n'est quand même pas vu comme étant une personne citoyenne face à notre employeur. Là, puis là c'est très, très nuancé, là. Mm-hmm. Très pas nuancé, là. Mon opinion est beaucoup plus nuancée. Mais tu sais, c'est vraiment ça, là. Puis moi, je trouve que c'est intéressant comment s'exprimer là-dedans, parce que c'est de manière assez ludique aussi, puis assez...
Oui, mais après, je vais être plus sérieuse.
Tu vas être plus sérieuse, je vais citer du Karl Marx.
Moi, ce qui me fascine du travail... En fait, à force d'avoir lu là-dessus et écouté plein de trucs cette semaine, particulièrement depuis le temps qu'on en parle, qu'on a pensé qu'on en parlerait, j'ai réalisé, une des choses que j'ai réalisées, c'est que quand on rencontre des gens, qu'est-ce qu'on demande? Bien, je ne sais pas vous autres, mais nous, notre génération, souvent, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Ouais.
On ne le dit pas comme ça, mais ça vient rapidement.
Mais c'est encore ça. Ouais. Ben, ouais. Parce que c'est le filtre à travers les gens, à travers lequel tu peux comprendre les gens. Tu sais, à part, mettons, l'éducation puis le travail, on ne sait plus comment demander, à part genre, c'est quoi ton signe astrologique? On ne sait plus comment demander, comme avoir une intuition rapide en quelques mots de qui est cette personne-là.
Mm-hmm. Ouais, puis moi, je trouve ça étrange parce que moi, j'essaie de plus la poser cette question-là, même si c'est très difficile. Puis en même temps, quand je réponds à cette question-là, je suis comme, ouais, non, c'est plus juste une réponse facile. Genre, ma réponse fait 8 lignes.
Moi aussi, je suis tellement découragée.
Ben oui, c'est ça. Toi, Alexis, même toi, là, oui, tu sais, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, que j'ai de la misère à l'expliquer.
À la retraite aussi, hein, je dois dire.
La retraite, c'est clair que c'est tellement varié, c'est tout et rien en même temps, mais, tu sais, raison qui
fait en sorte... Ce serait plus simple si on était, genre, pompier. Comptable.
On serait des bons pompiers.
Je pense que oui.
C'est vrai, hein?
C'est encore drôle, hein? Parce que quand tu dis ce que tu fais comme profession, comme par exemple, moi, quand je disais que j'étais éducatrice, il fallait vraiment que je raconte vraiment beaucoup de choses pour que les gens réalisent l'ampleur de ce que je faisais comme travail.
Mais ça, c'est s'ils voulaient savoir.
Bien, la plupart des gens étaient pas mal intéressés.
Oui, ouais. Parce que, tu sais, on se fait quand même une idée de, ben, éducatrice. Oui, ben, c'est
tu
vrai.
Tu gardes des enfants, il y en a encore.
Ben, oui, c'est ça, ça, c'est ça.
Ça vient beaucoup avec
c'est
plus la visibilité que ça. De profession. Tu sais, nous, en loisir, on a le même problème. Là. Quand tu dis technicien en loisir, les gens, ils comprennent pas. Là. Mm-hmm. Fait,
t'es payé pour ça, toi?
Ah, moi, je suis payé pour pousser des ballons, il paraît, dans la vie.
Ah, bon, d'accord.
En tout cas, c'est juste ça, ma job. Je me lève pas à bonne place à tous les matins. Mm-hmm. Mais tu sais, ça vient vraiment avec un problème de visibilité. Puis ça, c'est tous les domaines sociaux, toutes les... Ouais. Je suis tellement militante aujourd'hui. Toutes les carrières féministes.
Oui,
oui.
Tu sais, puis c'est la même chose en enseignement, excuse ton ordinateur, mais c'est la même chose en enseignement, tu sais, on dit souvent que l'enseignement, c'est,
ah ben,
tu fais juste te mettre devant une classe.
Ouais, t'es devant un tableau, derrière un tableau, ou devant un tableau, puis devant ta classe.
Je ne vois pas si t'es derrière le tableau.
Et, oui, je sais, c'est pas la première fois que je fais des signes comme ça, t'es à TV.
Mais tu sais, ça me fait penser, moi, depuis que, tu sais, là, j'ai fini l'école, je travaille pas mal à temps plein. Puis ce que je trouve, en fait, terrifiant à l'intérieur de moi, c'est que je me rends compte que j'ai plus le temps de faire autre chose. Fait que ça devient aussi, genre, aussi mon seul sujet de conversation. Puis je pense que c'est plus une peur que quelque chose de réel. Tu sais, je suis ici avec vous, fait que ça, dès lors, ça me fait d'autres sujets de conversation. Mais j'ai peur que ça prenne... Puis je vois comment ça peut facilement devenir tout ce que je fais d'intéressant.
Mm-hmm.
Puis c'est la seule chose que je peux partager. Et donc, c'est un peu, genre, toute ma personnalité, ce qui est terrifiant, genre.
Mais c'est pas si terrifiant parce
c'est terrifiant parce que c'est dicté par l'autre. C'est pas toi qui décides.
Non, 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 Alexis. Le travail, c'est la santé.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Et tous ensemble là, le travail, c'est la santé. Après le travail, faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Tu parles, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Maintenant, dans le plus village, les gens travaillent comme des sauvages, je les ai vus, pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout peint, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
Voilà, comme une fois pour te feignant là.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver.
Les métiers des arts et de la culture, il y en a une foule. Ça demande des gens de talent qui créent, innovent et soulèvent la fierté. Ça fait des vies remplies d'imprévus, des journées qui suivent sans se ressembler, des avenirs hauts en couleur. De la gérance à l'enseignement, de la gestion au numérique, quel que soit ton engouement, tu vas trouver le métier qui va te passionner. Pour découvrir des gens et des carrières hors de l'ordinaire, visite cultureetmoi.ca. Culture et moi, des métiers de sens et de passion. Un message du gouvernement du Québec.
Zine Tonic, c'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois une zineur zineuse pour jaser d'inspiration et de création chaque mercredi 18h sur les ondes de CBL 105 FM Montréal.
Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18h, en rediffusion mercredi 14h à CIBL.
CIBL 105, Montréal.
Alors, on est de retour à Trait d'Union pour notre deuxième demi-heure. On revient sur l'historique de cette facette de nos vies. Mais à travers les commentaires de Mme Méda, vous vous souvenez, Mme Méda, oui, là, la sociologue supersonique, là, qui, je le rappelle...
J'aimerais ça être décrit comme ça un jour.
Est-ce que tu vas te spécialiser sur le sujet du travail? Mais toi, j'imagine que ce serait sur tellement de choses. Alors, les propos de Dominique Méda ont été entendus sur le podcast Circular Metabolism, qui présente des vidéos en français... Et en anglais. Là, j'étais prête à, tu sais, à dénoncer. Mais comme ils font, c'est bilingue. Tu sais, il y en a, il y a des...
C'est pour rejoindre plus de public.
Ouais. Voilà, voilà. Il y a des... Puis, c'est pas fait par les mêmes personnes en français que par les... Mais c'est un regroupement. Et je vous invite à aller voir ces podcasts-là sur YouTube. C'est tellement rempli d'informations, c'est extraordinaire. C'est vraiment...
C'est bien fait. J'ai écouté l'épisode, justement, avec Mme Méda.
Ah, mon Dieu, que c'était bon. Fait que tu vas voir ce que j'ai réussi à soutirer. Oui. Ça durait quand même une heure et quelques.
Oui, oui, oui.
Alors d'abord, le mot, lui. Le terme vient du latin populaire tripa, iare.
Oui, avec un...
J'essaie d'avoir un accent un peu romain.
Sur le A.
Qui signifie torturer avec le tripalium chez les Romains, toi. Charmant, n'est-ce pas?
Ça a l'air de fourrer.
Maintenant... Oui, oui, encore, oui, oui.
Mon Dieu, ça suffit. Bon,
ça, c'est plus sérieusement. Oui. Oui, maintenant...
Le plus vieux travail du monde.
Oui.
Et voilà. Comment est-ce qu'on peut situer la notion de travail dans le temps? Bon, les textes grecs étudiés par le philosophe, anthropologue et historien Jean-Pierre Vernant, que tout le monde connaît ici, n'est-ce pas?
Non.
Non, hein? Parlent de ce qui s'apparentait à la notion de ponos, soit... un dur labeur. D'accord? On mentionne également l'ergon, qui est l'œuvre en tant que résultat d'un travail, de quelque chose qui a été entrepris. Travail, entrepris. Ergon veut dire à peu près ça.
C'est intéressant.
Durant l'Antiquité, ça a été méprisé, ça. L'artisan était perçu comme étant un serviteur et non pas comme un citoyen à part entière. Il y a Marie-Noëlle Chamou, une autre recherche.
Anthropologue.
Exactement, mon cher, qui a une longue liste de parutions sur le sujet, puis qui, dans Société avec et sans contexte de travail, dit que nulle part on parle d'activité qui ressemble à la notion de travail avant l'époque médiévale. C'est pendant ce temps-là, à l'époque médiévale, que ça commence à faire son chemin dans la société, si vous voulez, dans le vocabulaire. C'est sûr qu'il est mentionné le fait que l'humanité, elle a dû faire face à la nature, qui a dû modifier, transformer son environnement pour survivre, hein, pour satisfaire ses besoins. Mais c'est décrit plus comme étant une nécessité, puis moins comme étant une possible satisfaction de voir son œuvre s'accomplir comme ça l'est aujourd'hui, là. C'est pendant, donc, le Moyen Âge qu'on commence à voir une valorisation puis une reconnaissance des ouvrages accomplis. Pendant le 17e siècle. Là, on rentre dans un temps moderne un petit peu.
Oui, c'est l'ère industrielle.
Bien, ça commence. On catégorise donc le travail, puis qu'on va le diviser en tâches. Ça va être des activités différentes, si on veut. D'ailleurs, l'économiste et philosophe Adam Smith, tout le monde connaît Adam Smith, démontre dans ses ouvrages où il parle de la puissance productive du travail que la notion de travail, justement, permet de démultiplier efficacement la production. Puis que c'est là que commence cette vision de la chose qui nous amène à aujourd'hui. Le travail est un moyen pour créer de la richesse maudite. Fascinant, comme dirait Charles. C'est là que je replace mes connaissances de l'histoire en me remémorant des ouvrages littéraires ou cinématographiques qui parlent de la bourgeoisie snobée par les nobles. Il y a également une série que j'ai vue sur Crave qui raconte l'histoire d'une famille de parvenus qui s'installe dans une rue de New York, dans un quartier même au 19e siècle, qui était jusqu'alors habité par de vieilles familles nobles qui refusent de les intégrer dans la vie culturelle et sociale de leur communauté. Quelle horreur! Ils ont dû travailler pour accéder à leur richesse, toi, chose.
Wesh.
Puis là, il y a une chose qui me frappe après avoir constaté ça, c'est qu'il est alors, il était alors considéré comme étant moderne de travailler. C'est devenu la chose à faire. C'était moderne de travailler pour obtenir une certaine satisfaction. Puis celle de pouvoir démontrer qu'on a réussi, c'était quelque chose, un accomplissement. Tandis qu'aujourd'hui, on remet tout ça en question. On devrait en reparler, bon, parce que on va parler de libéralisme, de capitalisme, de consommation, de toutes sortes de wesh, wesh, wesh. Puis, mais là, on va écouter quelque chose.
Faire de l'autoroute avec mon frère pis ma soeur en pyjama de nuit.
comment de bord, puis c'était bon en tabarouette.
J'adore ce groupe.
Ah, c'était bon, hein? Bien, je les ai vus en spectacle deux fois, puis ça fait pas l'unanimité chez nous, mais moi, j'avoue que leur deuxième, il va un peu plus loin. Mais moi, on dit que c'est festif en spectacle, ce groupe-là, ouais. Là. C'est bien, bien, belle faute. Je vais arrêter de parler, Ariane, parce que c'est à ton tour.
Ben moi, je vais vous parler... Ben, je ne t'ai pas dit de quoi parler. Dans la vie, je travaille autonome. Fait qu'on va te parler un petit peu du travail autonome.
C'est ça, c'était le titre de la chanson.
Exactement. Moi, il y a deux ans, je me suis posé la question si je voulais vivre pour travailler ou bien travailler pour vivre. Je n'ai pas tout le temps l'impression qu'on a le choix,
j'ai
vraiment.
J'ai déjà dit ça à un de mes boss.
Ah ouais, hein? Je ne sais pas monter là, parce que j'adorais mon ancien travail. Mais au final, je n'étais jamais là. Puis...
Tu n'étais jamais là?
Ben parce que... J'avais une grande flexibilité, fait que je pouvais faire mes événements puis tout, mais là, le matin, j'étais trop fatiguée parce que je rentrais à minuit la veille. Fait que, en tout cas, fait que ma boss était vraiment accommodante, mais ça marchait plus. Là. Autant pour moi, mes performances au travail, j'étais plus satisfaite. Autant que mes relations avec mes collègues étaient difficiles à cause de ça aussi. Autant que, au final, mes performances générales étaient moins bonnes. Puis, je trouve qu'on vit dans une société où, depuis longtemps, la valorisation principale qu'on reçoit, ben c'est l'effort dû à notre dur labeur. Puis même si les choses changent, j'ai pas tant l'impression que ça change, tu sais. Moi, dans les dernières années, j'ai vraiment décidé de me lancer à mon compte. Je retournerai pas du tout en arrière, là. Mais tu sais, quand j'ai lâché ma job, j'avais juste un contrat de tournée théâtrale qui durait 2 mois. Puis je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. J'étais comme, OK, j'ai rien de comme sur la glace, vraiment. Finalement, j'y suis arrivée, j'ai pris quelques mandats, mais jamais des mandats plus de 20 heures où j'ai pas de flexibilité pour faire d'autres choses, tu sais. Puis ça choque quand je dis ça, quand je dis que moi, je travaille juste 20 heures puis que je veux avoir du temps pour voir mes amis puis sortir le soir.
Faire comme le papa qui allait patiner.
C'est ça. Ça choque vraiment parce qu'on me dit que je veux le beurre, mais l'argent du beurre aussi.
Mais t'as pas tant de beurre que ça.
Mais merci, Louise. En effet, mais on me dit souvent ça. Puis je pense que ça vient d'une partie de peut-être... de jalousie, tu sais, de comme, hey, moi, j'ai pas pu me donner ce moment-là dans ma vie ou ce choix-là dans ma vie. Oui. Puis toi, t'oses te le donner.
C'est un miroir qui aime pas.
C'est ça, exactement. Je pense que c'est très difficile. Puis c'est pas juste avec des personnes de votre âge, des plus vieux, des boomers ou des X. C'est aussi avec des gens de notre âge, puis même des gens plus jeunes qui comprennent pas. Puis autant que j'aime beaucoup mes amis, puis que ça vient vraiment d'une belle place dans leur vie, autant que des fois, c'est difficile de comprendre que, hey, je vais pas retourner dans la corporate life, comme on appelle, jamais. Je sais plus un de mes plans, même si je suis bien brillante, même si je suis vraiment pertinente, mais ça ne me tente pas de signer pour travailler pour n'importe quelle compagnie dans n'importe quel domaine, tu sais. Puis là, j'étais comme, je sais que c'est drôle parce que ça, je trouve que ça fait 2 émissions qu'on est en contradiction sur beaucoup dans nos chroniques. Puis là, je me demande, qu'est-ce que toi, ça te fait d'entendre ça?
Ben moi, ce que ça me fait, c'est... Je t'admire.
C'est France.
Je t'admire de faire ça parce que moi, je n'ai pas été capable de prendre des initiatives à ce moment-là. Tu sais.
Mais parce que je me dis... Parce que c'est ça, je trouvais ça dommage de t'entendre dire la même chose que moi, je dis maintenant. Genre, tu sais, comme, mettons, que tu vas commencer cette année à vivre pour toi et à faire tes choix pour toi.
Je comprends.
Genre, j'étais comme... Puis en même temps, je comprends d'où vient votre génération. On en a parlé un peu au début. On a parlé un petit peu de... Comme quoi que c'est pas dans l'éducation, c'était vu comme une faiblesse, même que ça dérangeait l'ordre établi. Puis je suis tellement contente qu'on ait le droit de pouvoir se dire, hey, moi, je veux plus ça.
Mais il est temps qu'on se parle de
mais
ça.
Mais tu sais, Ariane, dans ma job, j'ai été très passionnée. T'sais, j'ai adoré ce que j'ai fait. Je me suis donnée. Je veux dire, j'en parlais, puis les gens, ils comprenaient. Ben, le monde en général comprenait vraiment ce que c'était que mon travail quand je leur expliquais. Mais vers la fin, c'était plus compliqué, c'était plus difficile. Je me sentais pas respectée, je me sentais pas aimée.
Est-ce que c'est la confrontation à cette vision de la chose?
Non, c'était plus...
Tu sais, celle de la nouvelle génération, là?
Bien, je pense pas. Moi, c'est plus au niveau du gouvernement. Ils viennent te chercher parce qu'ils ont besoin de toi, là, à un moment donné. Avec la pandémie, on l'a plus vu aussi, tu sais.
Les super-héros.
C'est ça, tu sais, les super-héros qui sont bien le fun, qui sont bien fins. Puis là, on va leur donner un petit peu plus de salaire parce que, tu sais, ils sont là pour nous servir.
Mais regarde,
c'est fini, là, puis regarde ce que ça donne, là,
C'est ça.
Fait que c'est un peu dans ce sens-là, mais moi, j'admire ce que tu fais, puis je suis très contente que tu puisses le faire. Puis, tu sais, oui, j'aurais aimé faire ça, mais là, je le fais pendant la retraite, fait que vaut mieux tard que jamais.
Mais moi, je suis contente que tu le fasses pour toi maintenant aussi. Puis, je suis contente que, à un moment donné, on dise, hey, c'est assez, puis on veut d'autres choses. Puis, tu sais, j'avais une discussion très semblable avec ma mère pendant le temps des fêtes. Parce que, bien, arrêter de travailler à temps plein, mais ça implique que je dois faire certains choix, puis retourner vivre chez mes parents un moment. Puis mes parents, ils comprenaient pas du tout ce choix de vie-là. Là.
Tanguy, toi!
Ouais, hey, oui, Tanguy. Mais Tanguy, jamais là, là, comme ça va. Mais tu sais, c'est des trucs qui... C'est des discussions qui sont tout le temps autour de moi. Puis à chaque fois, on arrive à ce point-là, justement, de... Ben, je suis contente que tu le fasses pour toi maintenant, puis que tu aies la chance de le faire, mais je me demande pourquoi nous, on peut le faire, puis... qu'avant, on ne l'osait pas, tu sais.
Ben, ça me touche que ça te préoccupe. Ça me touche que ça te préoccupe puis que tu m'en parles. Je trouve ça le fun. Ouais.
Ça fait plaisir. Oh, vous avez sûrement dit bien nous élever. Ça doit être ça.
Ouais, c'est ça.
Mais je pense qu'il y a aussi le... c'est sécurisant de savoir qu'il y a assez de jobs pour que, s'il faut, on peut se trouver une job à temps plein.
Ouais.
Tu sais, fait que c'est comme... En tout cas, tu sais, là... Nous... En tout cas, moi, je parle d'une personne que je me considère comme privilégiée. Là, je sais que je... Il y en a qui ne peuvent pas faire ce choix-là.
T'avais le choix, toi.
C'est ça, j'ai le choix.
Hey, il est sorti de l'université, il y avait bon, que je fais ça ou ça.
Puis en fait, moi, je suis tombé dans l'autre côté. Je me disais, ah oui, je vais prendre le temps et tout. Mais j'ai. I guess que je suis comme dans l'élan de productivité. Je suis désolée, là, ma maman. J'imagine. Je peux spéculer quant à la nature de mes pulsions, mais d'après moi, il découle de la société de productivité dans laquelle on est. Fait que là, finalement, je me suis trouvé une job à 4 jours semaine, merveilleux. Sauf que là, je me suis trouvé une autre job pour la journée restante. Puis des petits contrats on the side. Fait que là, maintenant, je travaille plus que 35 heures. Fait que là, c'est comme... c'est drôle, travailler en environnement. Dire qu'il faut moins travailler, finalement.
Oui, puis ça vient aussi avec des penchants. Parce que j'imagine que toi, tu fais ça pour vouloir changer un peu les choses aussi au niveau de l'environnement. Puis tout. Fait que là, c'est... Et où la ligne entre le travail humanitaire et... ton temps à toi. Puis là, c'est une autre discussion, là, mais comme... Je trouve que c'est intéressant, parce que moi aussi, c'est quelque chose qui m'habite. Je veux changer le monde, mais comme... Ouais. Changer le monde, ça prend pas 8 heures par semaine.
Exactement.
Bon, fait que... On doit maintenant désintensifier le travail, gang. Il faut démontrer que le risque d'être mangé par les autres, c'est moins important que ce que le monde produit, puis qui est responsable du dérèglement quasi irrémédiable de la vie humaine sur Terre, et ce... À plusieurs points de vue, le travail, c'est ça. Thorsten Bonde-Veblen, un gars du Lac-Saint-Jean, économiste et sociologue étatsunien, toi, il a dû déménager monnaie, le disait déjà en 1899, ça date, là, dans Théorie de la classe des loisirs. La société de consommation satisfait maintenant les besoins nouvellement créés et alimente une dynamique ostentatoire de rivalité.
Oui, c'est intéressant, ça.
Je consomme pour montrer à l'autre que je suis supérieur. Il faut évidemment que cette vision disparaisse. Si l'éducation contribue à former des citoyens conscients du danger que représente la perpétuation du système actuel, si les jeunes générations, vous autres, déjà avisées et engagées, y contribuent maintenant, peut-être que les choses vont changer. Puis il va falloir que ça se fasse à l'échelle mondiale. Là, moi, ce que j'ai retenu de la discussion de notre nouvelle amie, Dominique, c'est qu'eux visaient juste la France. Mais faut, tu ne peux pas travailler en silo, là, non, ça ne marchera pas. Là.
Tu ne peux pas changer le travail en France puis t'attendre à ce que tout va bien parce qu'on est dans une société globalisée.
Mais les études sur le loisir et le travail sont beaucoup plus avancées en France qu'au Québec. Là.
Ouais.
Pour avoir travaillé dans le domaine du loisir et en parler autour de moi, il n'y a pas beaucoup de... On a des belles places, mais il n'y a pas beaucoup de places pour en parler. Fait que c'est dommage, mais j'espère qu'un jour, on va arriver à ça. Puis je pense que les choses changent de plus en plus parce qu'on peut en parler maintenant au micro ici, tu sais. Puis je suis sûre que c'est des discussions qu'on a aussi au quotidien dans nos cercles d'amis. Moi, je sais que c'est quelque chose qui revient souvent.
Ouais.
Quand on vient à parler de sujets d'adultes, entre guillemets, là, on est comme, hey, mais on est d'autres choses que genre des gens qui travaillent puis qui achètent des maisons. C'est peux-tu parler de d'autres choses?
Puis c'est intéressant que tu aies parlé de Veblen puis de la consommation parce que c'est comme le pendant du travail. Ben, je l'avais croisé dans mes cours.
Mais, lui, personnellement?
Non, pas personnellement. Il est mort.
Non,
ben,
1899.
mais c'est le pendant du travail. T'sais, pour produire plus, il faut que des gens fassent quelque chose avec ce que tu produis. Genre. Fait qu'il faut que les gens consomment. Puis, tu sais, c'est pas juste je consomme pour être en rivalité avec les autres. C'est je, maintenant, c'est je consomme, donc je suis.
Ben oui.
Parce qu'on se définit par notre manière de consommer puis de travailler. Parce que finalement, puis tout le reste est écarté. C'est comme le principe du capitalisme, c'est de tout rentrer dans une dynamique marchande. Fait que c'est pratique, genre tu produis de la valeur, après ça, ta valeur, tu la rejettes, puis fait qu'on est tout le temps dans une transaction, puis c'est tout ce qu'on est.
Je me sens dans mon cours de socio, là. mais oui, en effet, là. Puis c'est tellement vrai, tu sais, moi, dans ma vie, les gens travaillent avec moi, là. Ils travaillent pas avec une compagnie XY, là. Fait que c'est moi qui achète, là, quand ils m'embauchent, là. Fait que c'est vraiment particulier quand tu travailles autonome aussi, parce que les notions de productivité sont encore plus intenses. C'est quelque chose que j'ai décortiqué longtemps avec mon psy, parce qu'il faut que tu apprennes à faire, OK, mais j'ai un mois extérieur, mettons, puis j'ai un mois professionnel.
Genre, tu fais plus de 9 à 5, mais c'est tu fais ça. Un peu du 24 heures sur 24, ouais. Passé dans ta tête tout le temps.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais.
Fait que c'est pour ça que mon téléphone est tout le temps, on n'a pas dérangé. Je suis désolée.
C'est vrai?
Oui, tout le temps.
Genre... Ah, c'est drôle, j'entendais quelqu'un, je pense que c'est Christian Bégin hier qui disait « Maintenant, les gens ne répondent plus. Tu appelles quelqu'un, puis ils ne répondent plus. » Il dit « C'est bien trop fatigant,
ça. » C'est parce que 90 % des appels qu'on reçoit, c'est aussi du caca, là, on s'entend.
Oui, c'est vrai.
Ben...
Oh, c'est vrai, Alexis. Oh, en tout cas. Ouais.
Des histoires qu'on ne connaît peut-être pas. Mais en effet, mais moi, je trouve que cette notion de productivité-là est beaucoup là. Puis ce matin, j'ai vu un réel sur Instagram d'un humoriste. Puis il parlait des paiements quand on était très autonome. Puis genre, quand on arrive au mois de janvier, on se fait enfin payer toutes nos dépenses de décembre puis novembre, mais que ça s'en va tout dans notre carte de crédit puis qu'on ne s'en sort pas. Fait qu'en tout cas, c'est bien intéressant ça aussi.
Ah oui, c'est super. Mais on va venir... Ben, c'est super. Pourquoi je dis ça? Là? C'est super, Ariane, ce que tu as dit, là.
Wow, mon été!
Tu sais, quand tu veux finir, là, puis bon.
Oui.
On va finir avec, justement, finir... On finit pas tout de suite, mais on va y aller avec...
On achève ce segment.
De l'espoir.
Oh. Wow!
Devant nous un chantier enthousiasmant. Et notamment pour les jeunes, tous ces jeunes qui en ont marre de leur boulot. En effet, il y a plein de métiers qui n'ont aucun sens, aucun intérêt. Eh bien, nous pouvons mettre au service de cette reconversion écologique des nouveaux emplois, des nouveaux métiers, des nouveaux jobs qui seront pleins de sens, qui seront peut-être durs, hein, mais qui seront pleins de sens, qui nous permettront de créer une nouvelle société. Et donc ça, en effet, je trouve que c'est une perspective enthousiasmante. Il faut absolument qu'on y arrive.
Alors, est-ce que ça vous donne de l'espoir?
Moi,
un peu?
Ce que je trouve intéressant, c'est... Genre, ça me fait penser encore au labeur dont elle parlait avant. Puis dans ma tête, je vois, mettons, quelqu'un qui se fabrique une maison, là. Tu penses pas que c'est du travail, tu fais ta maison. Genre, c'est... Puis c'est difficile de fabriquer une maison, mettons, couper du bois et tout. Puis dans ma tête, c'est ça que je vois quand elle parle des nouveaux travails qui ont du sens, qui sont peut-être difficiles parce que c'est nous qui les faisons. C'est ultimement...
Mais votre génération, vous retournez souvent vers les choses simples comme ça.
Oui, mais tu sais, le but, c'est de moins... travailler au sens, là je fais des guillemets dans les airs, travailler au sens capitaliste de créer de la valeur, faire de moins de ça, puis plus de, c'est quoi le mot avec quoi on remplace, mais genre créer des choses pour nous, puis pour notre communauté.
Pour vivre, tout simplement.
On a la chance d'être créatif. Oui, on a la chance d'être créatif puis d'inventer notre propre job, entre guillemets, ou travail. Tu sais. Et puis ça, c'est vraiment génial parce qu'on est tellement créatif ici, en plus, au Québec. On a inventé énormément de choses. Tu sais. Puis je trouve ça le fun. On est très artistes, très articulés ici. Tu sais. Puis c'est passionnant de voir les jeunes et même les moins jeunes créer des nouvelles façons de travailler avec ce qu'ils aiment puis ce qu'ils veulent inventer, en fait. Là, tu sais.
Mais on est beaucoup plus dans un élan entrepreneurial, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait.
Puis je serais curieuse de voir les statistiques d'inscription au cours de lancement d'entreprise. Elles ont grossi depuis les 10-15 dernières années. Mais, tu sais, moi, j'en ai fait un. Cours de l'entreprise dans mes études. Puis, c'est quand même quelque chose qui revient là, autour de moi. Puis, à chaque fois que je parle à quelqu'un, son emploi idéal, c'est celui qui crée. Puis, c'est comme qu'est-ce qui va y appartenir. Puis, souvent, ça va avoir une tendance sociale puis une tendance politique aussi, comme tu le dis. Là.
Ouais.
Fait que oui, en effet, c'est une chance qu'on puisse l'écrire. Mais en même temps, il y a un risque à ça. parce que les services publics, ils sont pas étanches, puis ils évoluent pas.
Non.
Puis ça, c'est une de mes peurs, moi.
Ben oui, on en parlait la semaine dernière. Il n'y aura pas de retraite, Caroline, pour vous autres.
Non, mais juste comment les hôpitaux, les écoles et les CPE fonctionnent, là, de la manière... OK. Excusez. Juste la manière dont les trucs fonctionnent actuellement, ça, on peut pas faire rentrer les gens... Je peux pas arriver dans mon cégep et faire comme, bon, ben moi, je crée ma job avec toute la flexibilité que je veux. Non, tu sais. Puis l'affaire, c'est que les institutions, elles, ne peuvent pas être autant élastiques. Fait que moi, c'est la seule manière où... Parce que c'est une des beautés, une des choses qu'on a créées qui est beau au Québec, c'est notre service public. Mais, en tout cas.
Ben oui.
Mais il y a aussi le fait qu'il y a des emplois qu'il va falloir qu'ils restent, là, un cordonnier, tu sais, l'économie circulaire, puis tout ça, puis il doit moins gaspiller. Il y a des choses qu'il va falloir qu'ils restent, puis il va falloir se réinventer là-dedans.
On va en parler,
que t'as
pas, tabarouette. Oui,
ouais, ça il faut que ça reste, puis il faut que ça revienne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cordonniers, il n'y a pas beaucoup de réparateurs électroniques, là, il en faut, parce que là, nos appareils, là, ça va faire des jetés.
Des réparateurs qui nous apprennent à réparer, tu sais.
Oui.
Oui, tout à fait.
Justement, chez Insertec Angus, ils offrent des cours aux gens pour, arranger leurs ordinateurs ou du moins...
Être autonome.
Parce que sinon, c'est vrai que les services, on crée des emplois en allant les voir, mais quand même. Puis je ne sais pas s'ils parlent de réparation, mais quand même, tu sais.
Mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a la Shop aussi qui fait ça. En tout cas, allez voir, avoir des cours de
Il y a plein de ressources à Montréal, de plus en plus.
Bon, écoutez, là, c'est bien beau tout ça, mais il y a le sport dans la vie aussi.
Mon Dieu!
Allô! Vous vous souvenez probablement que je vous ai déjà parlé de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan du début de saison de l'équipe montréalaise. Premièrement, elles ont participé à 5 parties, 3 victoires et 2 défaites, ce qui leur classe au deuxième rang de la Ligue. Mardi le 16, elles étaient à la place Belle à Laval pour un match contre New York. Elles ont gagné. Marie-Philippe Poulin est la première au classement des buts et la troisième pour les points.
Puis elle a fait partie de l'équipe montréalaise, hein?
Ouais.
Yes!
Dans cette ligue, il y a un record de foule pour les gens qui veulent encourager leur équipe. Tout le monde est donc satisfait de l'engouement envers cette ligue.
Ben, merci beaucoup, Julien!
De rien!
La semaine prochaine, penses-tu avoir un bon sujet?
Oui, sûrement.
Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine!
D'accord.
Bye, bonne année.
Et c'est Julien, on l'aime-tu. Il est cute. Bon, ben c'est terminé pour cette semaine. Tabarouette, faut finir par le sport, c'est un classique. Je remercie celle qui m'accompagne à cette table aujourd'hui, celle et celui, n'est-ce pas, mon fils. Et puis ceux qui sont de l'autre côté de la vitre, il y a un trio de l'autre côté, ils sont très occupés à pousser des boutons, c'est ça. Puis il ne faudrait pas oublier, en parlant de... Bien, ils font en sorte qu'on nous entende partout dans la région de Montréal.
Ouais.
C'est qu'il y a des panneurs. Il y a des dépanneurs partout dans la région de Montréal qui vendent des belles feuilles pour le bingo de CIBL.
Oh, c'est le fun et bingo.
Oui, il y a 3 500 $ en prix disponible. Fait qu'il ne faudrait pas oublier d'aller voir de ce côté-là. On l'a fait à la maison, en groupe, en famille.
En groupe,
faites ça, un beau bingo, puis vous aidez la radio de CIBL, une belle radio communautaire où on est heureux de venir à toutes les semaines.
Est-ce que les prix, c'est les étiquettes, là? Comment on appelle ça déjà
Les Time Gold Star?
Oui, les Time, c'est ça.
Non. C'est de l'argent. C'est de la vraie argent. Inquiétez-vous pas. Alors, je suis Louise Curodeau pour Trait d'Union, l'émission qui réunit les générations aussi souvent que possible. On vous souhaite une belle fin de semaine, puis on se retrouve à la même heure, 14h, vendredi prochain, à CIBL 101,5.
Allez, prends le...
Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 $ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Décadence.
3 heures de musique deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence.
Les vendredis soirs dès minuit, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end.
Votre week-end. CIBL au cœur de la décadence.
Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour La Cabane à Contes, l'émission où on vous raconte des histoires.
CIBL 101.5 Montréal.
CIBL, 40 años en el corazón de la cultura.
Cette émission est une reprise.